Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde, sa vision du monde, à travers différentes expériences de vie, à travers différents parcours de vie. Donc j'aime bien dans cette émission radio donner la parole à des voyageurs, des écrivains voyageurs, des photographes, des réalisateurs, ou tous ceux qui sont en lien avec l'ailleurs et le mouvement. Léa, je ne te connais pas encore, hein, je sais juste que tu fais du yoga, que tu es voyageuse, que tu as été au Japon. Donc l'idée, c'est vraiment prendre le temps dans cette émission de te rencontrer et de voir ce qui, toi, peut-être enfant, a fait que tu aies envie d'aller voir ce qui se passe au-delà des frontières, de la ville qui t'a vu naître. Voilà, donc reviens peut-être un petit peu à cette époque de ta vie et essaie de nous emmener dans ton histoire qui est celle de Léa la voyageuse.
Ce qui a fait cette envie de voyage, je pense qu'elle était... Elle était peut-être pas immédiate, ou en tous les cas, pas de cette façon-là. J'ai commencé le voyage lorsque j'ai vécu à l'étranger, principalement pour mes études. Et c'est là que j'ai découvert l'Asie, puisque j'ai vécu en Corée du Sud et en Chine. Et j'ai eu un coup de cœur absolument incroyable pour la Corée du Sud, principalement. Et c'est là que j'ai commencé à... avoir le voyage que moi j'avais véritablement choisi, parce que avant je pense que c'était un voyage qui était un peu plus même carrément touristique, tu vois, avoir toutes les attractions, etc. Et c'est clairement ce qui m'a ouvert sur le voyage. Mais ce voyage en Corée du Sud, et où j'avais fait un passage avant au Japon pour la première fois, c'est la première fois que j'étais seule et que là j'ai commencé à avoir envie d'un peu plus de nature, et c'est la première fois que j'ai fait mes séjours dans des temples, et je pense que ça a été une sacrée révélation.
On en reparlera après, mais donc si j'ai bien compris, tu es partie, toi, c'était la carte des études qui t'a permis d'aller vivre à l'étranger, et t'as choisi la Corée du Sud. C'est pas fréquent ça comme pays d'expatriation pour étudier ici?
Si on me demande pourquoi, je dirais que c'est un hasard total, je vais pas te mentir. Je pense que la seule chose qui me l'a fait choisir, c'est vraiment ce besoin d'être un peu aussi, de faire un voyage un peu différent et un peu hors des sentiers battus et de tout ce qui était connu. Et après, je me suis laissée porter.
Ok. Tu allais y faire quoi? Tu as étudié quoi en Corée?
J'ai étudié l'économie. Puisque j'étais à l'époque en école de commerce.
Donc ça, c'est quoi? C'est un programme genre Erasmus qui te permet d'aller vivre à l'étranger? C'est quoi le programme qui permet aux étudiants en France aujourd'hui d'aller vivre une expérience à l'étranger?
En fait, en sortant du bac, j'avais fait 2 ans de classe préparatoire pour faire une grande école de commerce. Et donc, c'est dans le cadre de cette grande école que j'ai fait des semestres à l'étranger. Et ça, c'était une université partenaire, donc dans laquelle... Après, j'étais en immersion pendant plusieurs mois.
Tu parles de coup de cœur pour la Corée. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu aies un coup de cœur en arrivant là-bas? J'imagine à Séoul ou Busan, je ne sais pas dans quelle ville tu t'es retrouvée.
Je me suis retrouvée à Séoul. Et ce qui a fait le coup de cœur, en tous les cas, ce qui a contribué, c'est que j'ai eu une amie coréenne qui m'a vraiment initiée en fait à toute la tradition coréenne. Donc c'est-à-dire qu'évidemment j'étais en lien avec d'autres étudiants européens, mais c'est avec elle que j'ai passé la majeure partie de mon temps, et en l'occurrence les week-ends, dès qu'on avait du temps, j'allais dans sa famille, j'allais voir sa grand-mère qui était dans des endroits assez reculés de la Corée dans les montagnes. Et c'est là que, en parlant, je suis émue, je suis moi-même surprise, que en fait j'ai découvert un mode de vie qui était encore très traditionnel, dans des petites maisons en bois où ils vivent à même le sol, enfin, ce qui est en fait la tradition de la Corée avant d'être un pays industrialisé comme on connaît aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est cette rencontre Et ce partage qui a clairement fait tout le voyage.
Parce que la Corée, aujourd'hui, on a l'image d'un pays hyper développé, industrialisé, qui a connu un boom économique très rapide, encore plus rapide que le Japon à côté, où après la guerre, la Corée s'est relevée de ses cendres et aujourd'hui est peut-être au niveau, enfin au must en termes de technologie. Et si aujourd'hui le capitalisme était un monstre, je pense que le cœur du monstre pourrait se trouver soit en Corée, à Séoul, soit à Dubaï, dans les Émirats.
Je ne dirais pas le contraire, mais je suis persuadée, comme dans bien d'autres pays desquels on va peut-être parler bientôt, il y a toujours des endroits qui sont préservés. Et même si c'est pas facile, il faut arriver à s'extraire de tout ça, je pense qu'on peut encore les trouver.
Tu disais avant, c'est dans cette expérience en Corée où tu as peut-être commencé à faire la différence entre le voyage et le tourisme. Donc là, tu le dis aussi, hein, cette envie de retrouver avec quelque chose, de te reconnecter à une forme d'authenticité, ou en tout cas à des traditions culturelles. Comme on disait, on mangeait tous par terre dans un petit chalet de bois. C'est vrai qu'il y a ça, ou c'était ça, ça l'est de moins en moins, mais ça existe encore. Est-ce que tu peux me parler du voyage? Qu'est-ce que c'est que pour toi, le voyage, justement, pour le différencier du tourisme? Qu'est-ce que ça représente et comment est-ce que tu l'imagines? Comment tu l'entends et comment tu le vis?
C'est la première des motivations, je dirais que c'est de créer une forme de vide, c'est-à-dire que en partant, j'ai rien sur l'agenda, j'ai pas de choses à visiter, j'ai pas d'itinéraire prédéfini. Et lors de mon voyage, mon dernier voyage, j'avais même pas de billet retour, mais vraiment volontairement, en fait, pour laisser le vide et voir aussi avec quoi je vais combler le vide. Donc voir ce qui vient. Donc c'est à la fois c'est chaque jour voir ce que je vais faire de moi-même et puis surtout ben laisser la place à l'imprévu, aux gens que je vais rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai fait au Japon mes plus belles rencontres. Et après, et faire ça, en fait, ça laisse justement la possibilité d'aller dans ces atmosphères particulières qui sont un peu plus reculées. Mais évidemment, ça demande plus de temps, ça demande d'être flexible. Et puis ça demande aussi de garder du temps, en fait, pour soi, de continuer ses routines. Pour moi, c'est des routines de méditation qui permettent aussi de savoir où j'en suis, des routines d'écriture et qui me permettent en fait de faire un voyage qui est en conscience. Donc dans ce que je fais, dans ce que je vais voir, dans les personnes que je vais rencontrer et puis aussi ben, accepter de faire moins puisque quand on part longtemps, on peut pas... Enfin, moi j'ai du mal à remplir toutes mes journées en me disant je veux faire telle chose, telle chose. Je prends beaucoup de temps aussi juste pour vivre le pays, c'est-à-dire faire comme si j'étais chez moi. Donc, il y a véritablement des moments de rien. Donc, oui, je suis au milieu de Kyoto. Oui, j'aurais pas vu tous les endroits à voir de la ville. Mais en revanche, j'ai pris du temps sur un banc, sous cet arbre, pour rien faire et me poser, quoi.
Donc là, tu abordes un sujet très intéressant, cette notion d'espace et de temps. Quand on part en voyage, tu disais, tu prends des fois que le billet aller. Et tu t'offres ce luxe, qui peut être un des plus grands luxes. Hein. Quelqu'un a posé cette phrase horrible, le temps c'est de l'argent. Alors que le temps c'est quelque chose d'hyper précieux pour pouvoir vivre des expériences bien plus riches que ce que ce temps pourrait nous apporter de manière économique.
Et puis c'est surtout que donc, le temps c'est surtout du luxe. Oui, c'est important de le rappeler, de pouvoir se permettre aussi de se dégager autant de temps. Mais je pense qu'en fait c'est vraiment dans ces moments-là en fait, il y a aussi quelque chose de plus profond qui peut émerger. Des choses qu'on peut découvrir vraiment que lorsqu'on a laissé, si je peux dire, toute la boue se poser. Alors là, je suis contente qu'on en arrive là parce que moi, j'adore l'image qui est utilisée par les bouddhistes qui dit que, en fait, le lotus, il fleurit dans la boue. Mais donc, pour ça, il faut que toute l'eau qui est trouble et remplie de la boue puisse se poser. La boue se dépose au fond. Et de là, il y a des choses qui peuvent fleurir et qu'on peut aller toucher du doigt, voilà, à condition d'avoir créé toutes ces conditions-là un peu particulières. Pour moi, ça a pas mal de symbolique, mais ça représente aussi une forme d'immobilisme qui est l'immobilisme que je peux retrouver dans la méditation, ou du moins la lenteur, puisqu'à partir du moment où on accepte par le corps et aussi par les pensées, de laisser tout ça se poser. Je pense que c'est là qu'on a véritablement des chances de ressentir des choses qui viennent véritablement de l'intérieur Et c'est en créant aussi ce silence, cet immobilisme-là, que des choses un peu plus intenses peuvent émerger. Mmh. Et c'est aussi dans la contemplation, puisque c'est aussi accepter que c'est de la boue, en fait, qui va. Et on n'est pas là pour la chasser, mais juste pour contempler encore une fois.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Léa, donc tu parles de ce rapport au temps, tu parles aussi du mot conscience, remettre de la conscience dans le mouvement, dans le voyage. Donc tu découvres un petit peu cette dynamique du voyage à travers ton expatriation en Corée dans le cadre de tes études, ce qui t'emmène à voyager un petit peu dans d'autres pays. Le mot conscience aussi qui a l'air d'être assez présent, assez important, méditation aussi, tu parles de méditation. Donc à quel moment tu rencontres ça, la méditation? C'est quelque chose que tu as découvert dans tes voyages ou est-ce que tu étais déjà sensibilisé à la méditation avant de partir ici en France?
Alors c'est quelque chose que j'ai rencontré pendant mes voyages, mais j'ai toujours été sensible à ce qui pouvait se passer un peu au-delà du connu, de ce qu'on connaît, et j'ai toujours été surtout très attirée et très intriguée par ces personnes, que ce soit des moines chrétiens ou que ce soit des moines bouddhistes ou d'autres religions ou certaines pratiques de certains gourous en Inde. Enfin, ce domaine un peu non tangible m'a toujours attirée. Et donc, la première fois que je rencontre la méditation, c'est quand je vais dans ce fameux temple en Corée pour plusieurs nuits et où je me lève donc à 4h du matin pour aller suivre vraiment en toute discrétion la vie des moines, puisqu'ils n'avaient pas vocation à être mélangés dans le monde. Et c'est là que je ressens la puissance des chants des moines et du chant du Om à 4h du matin dans un temple encore immergé dans une nuit totale. Et là, clairement, c'était à peine quelques nuits, quelques jours, mais il y a un énorme déclic qui s'est fait. Je me rappelle, je dormais à même le sol, sans coussin, sur le bois directement. Et ça a été vraiment... j'ai eu ces nuits-là, des nuits vraiment de révélation, on va dire.
Mais tu te retrouves en Corée dans le cadre d'études dans l'économie internationale ou marketing, et tu te retrouves à dormir sur des planches dans un temple, à faire des om. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, je ne l'avais jamais vu de cette façon, mais effectivement, peut-être qu'il y avait déjà quelque chose à cette époque à l'intérieur de moi qui cherchait déjà quelque chose d'autre, puisque bah, aujourd'hui, c'est plus du tout, en tous les cas, l'économie, le marketing que je faisais à l'époque, c'est plus du tout la voie que je suis, et j'avais déjà cet appel-là d'aller un peu voir ailleurs.
C'est aussi ce qui est extraordinaire dans le voyage, c'est cette notion d'immersion. D'immersion dans des réalités tellement différentes de celles qu'on peut partager ou qu'on peut vivre ici. Des fois, sortir, se libérer du connu, sortir de son propre carcan de croyances, de poser un autre regard sur le monde à travers ses expériences de vie. Ici, en France, on peut pas forcément se retrouver à dormir sur des planches avec des moines coréens, donc le Corée le permet, comme dans beaucoup d'autres pays. Et voilà, donc en Corée, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le temple stay. On a cette possibilité, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, d'expérimenter la vie des moines. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant de voir cette ferveur, cette dévotion, ces chants. C'est peut-être ça aussi qu'on retrouve dans le voyage, cette magie de pouvoir vivre quelque chose de radicalement différent de ce qu'on a expérimenté jusqu'à présent en France.
Et je pense que cette immersion, encore une fois, il y a quelques facteurs quand même favorisants que j'ai identifiés. Je pense qu'il y en a bien d'autres et qui sont très personnels. Mais je pense qu'il y a aussi le fait de déconnecter. Enfin, je pense que l'immersion, elle vient pas sans une certaine déconnexion, en tous les cas, du connu. Donc, de ce qui est nos habitudes, notre milieu social, notre pays. Aussi de toutes les choses dont on a du mal à s'extraire dans notre vie quotidienne. Pour moi, un voyage qui est vraiment immersif, c'est quand j'arrive à me couper de tout ça et à, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais à vraiment couper volontairement de toutes les choses qui peuvent venir de l'extérieur. Donc là, clairement, on peut parler du téléphone portable, du réseau, des connexions, et plutôt à créer un peu un isolement, mais qui n'est pas une solitude, mais plutôt un isolement de ce qui nous relie en permanence.
Ce qui en soi est compliqué, parce qu'on est tout le temps sollicité, voire sur-sollicité, qu'on a du mal à faire de l'espace et faire du vide. On cherche souvent à le combler, et c'est compliqué de se retrouver sans rien à faire.
Et c'est justement ça que je trouve vraiment très très excitant et aussi assez effrayant. Mais je pense que c'est dès qu'on arrive à passer cette barrière-là, un peu de la peur de l'inconnu, qu'il y a des vraies choses qui commencent à se passer dans le voyage, des choses certes imprévues. Mais en tous les cas, pour moi, les plus belles prises de conscience et aussi beaucoup de rencontres que j'ai envie de ramener dans ma vie quotidienne.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir.
Tu finis ton immersion coréenne, tu finis tes études, et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je te rencontre pas dans une agence de marketing, je te retrouve dans mon salon, assis en tailleur, comme prof de yoga. Donc, reviens un peu sur ton itinéraire. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de tes études, après la Corée? Est-ce qu'il y a eu d'autres voyages?
Effectivement, tu me retrouves 10 ans après. Entre-temps, il y a eu... j'ai vécu en Chine. Mais là, j'étais dans une école française. Donc, c'était un peu différent. C'était beaucoup moins immersif pour moi. Et après, tous mes voyages étaient vraiment dans le cadre de mes vacances. Donc, quelque chose d'assez classique quand on peut se le permettre. Puisque j'ai continué ma voie dans le domaine du marketing, j'ai travaillé dans le marketing du luxe à Paris, dans des grandes maisons, puis ensuite j'ai été responsable marketing dans une entreprise internationale. Enfin, j'ai suivi une voie classique, tracée classique, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, donc il y a 3 ans maintenant, j'avais déjà beaucoup de questionnements depuis plusieurs années, j'ai fait une dépression. Et ce qui m'a mené à revoir toute ma vie, hein, donc pas seulement professionnelle, hein, souvent le côté professionnel c'est seulement une petite partie du gros problème entre guillemets, mais plus, enfin au-delà de ça, pour moi c'est une recherche en fait de sens dans tous les aspects de ma vie qui s'est donc passé. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment cette fois, pour la première fois de ma vie, je parlais de vide tout à l'heure, que j'ai créé le vide dont j'avais toujours eu besoin. Donc j'ai pris beaucoup de distance par rapport à tout ce dont mon quotidien était rempli et je me suis un peu protégée. Et là, j'ai recommencé à voyager pour continuer de faire grandir ce vide-là et de voir par quoi il serait rempli si moi-même je pouvais mettre vraiment ce que j'avais envie de mettre dans ce vide. Et si j'arrêtais de suivre, comme je l'avais fait avant, peut-être des injonctions de ce que la société attend, de toutes les cases qu'il faut cocher pour être parfaite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer plus de temps à faire du yoga, de la méditation. Et puis j'ai commencé à aussi laisser plus de temps à toutes ces philosophies qui m'appelaient, toutes ces différentes religions aussi qui m'appelaient. Et puis je les ai vraiment vécues par des immersions, donc dans des monastères, dans des temples.
Je reviens sur ce changement de vie, cette quête de sens, hein, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie question. Le sens, où est-ce qu'on met notre temps et où est-ce qu'on met notre énergie? Et tu parlais d'injonction de la société, une pression sociale, une pression familiale, et bien souvent on se retrouve dans une posture ou dans une vie qu'on n'a pas forcément choisie, pour reprendre le mot conscience, en conscience. Et donc ça passe par des burn-out, ça passe par des dépressions, de remettre ce sens et cette cohérence au cœur de nos vies. Donc je veux bien que tu reviennes de ta dépression. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Est-ce que tu peux nous parler de cette époque de ta vie, peut-être pour partager ce moment qui t'a permis finalement de rebondir sur autre chose derrière?
Bien sûr, je reviendrai avec plaisir sur ce moment de ma vie qui a été à la fois terrifiant et merveilleux, puisque en fait, c'est ça, donc comme je le disais, ça faisait plusieurs années qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me travaillait, et que moi, c'était vraiment très simple. Toutes les nuits, je faisais ce rêve où il y a quelque chose qui me disait « Demain, tu ne vas pas recommencer comme ça. Demain, tu ne peux pas repasser une journée comme ça qui est complètement vide de sens, c'est pas possible. Demain, il faut que ça s'arrête. » Je me réveillais comme ça, puis je me rendormais, et puis le lendemain, évidemment, je recommençais. Jusqu'au jour où il y a ce truc vraiment plus gros que moi, qui a vraiment grandi à l'intérieur de moi, Et puis aussi, donc ça, je pense que c'est aussi assez classique dans un parcours, c'est qu'il y a des événements de vie parfois qui sont très marquants. Ça peut être des maladies, ça peut être des accidents, ça peut être voilà la perte de certaines personnes. Et dans mon cas, c'est la perte d'une personne qui m'était très chère et très proche. Et là, ça a vraiment fait un déclic. Donc ça m'était déjà arrivé avant dans ma famille. Là, c'était mon oncle. Et en fait, ça a été la fois de trop, si je peux dire. Et cette fois-ci, j'ai vraiment vu la mort en face. Ça m'a fait un bien fou à moi. C'est très voilà personnel de dire ça. Et cette fois-ci, autant avant, je m'étais déjà dit, il n'y a pas une seule seconde à perdre à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut pas recommencer le lendemain, comme je disais. Mais autant cette fois-là, ça m'a vraiment claqué au visage. Et je n'ai plus seulement pensé, il fallait que le lendemain, ça s'incarne dans ma vraie vie. Bah, la première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire justement à une retraite de yoga où je me suis dit, bon, avant de tout claquer, de tout envoyer en l'air, il va falloir réfléchir, parce que ça faisait quand même déjà plusieurs années que je réfléchissais à ces choses-là. Et puis c'est aussi toute une vie que j'avais construite quand même depuis 10 ans.
Donc une vie professionnelle, hein, on parle vraiment de ça.
La difficulté des études. Mais aussi finalement une vie autour de la vie professionnelle, j'avais aussi une vie bien installée qui tournait autour. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, l'idée c'est pas de tout envoyer en l'air. De toute façon, ça fait quand même des années que ça me travaille, je suis plus à quelques jours près. Donc j'ai laissé passer après quelques mois, puis j'ai fait cette retraite de yoga qui a été décisive où en fait, j'ai été totalement en immersion, j'avais tous les ingrédients qu'il me fallait pour couper, pour me retrouver, pour retrouver mes envies. Et donc, je n'ai pas su immédiatement de quoi j'avais envie, puisque tout ça prend énormément de temps et ça change tout le temps. En revanche, j'ai su ce qui ne me convenait plus du tout. Et je le savais déjà depuis longtemps, mais bon, voilà. Et donc, ensuite, ça a mené à, pour moi, à une démission. Et ça a été un gros...
Mais quand on acte ça, donc ce qui te convient plus, je veux bien que tu l'exprimes, qu'est-ce qui te plaisait plus dans ton job, dans ta vie professionnelle que tu avais créé, parce que c'était finalement quand même toi qui l'avais créé, et aussi que tu nous parles des peurs, parce que c'est la peur du changement, hein, quand on est dans une routine, dans une habitude, même si ça ne nous convient pas, on sait quand même ce qui nous attend, et le fait de tout lâcher, de changer de cap, ça peut être assez vertigineux, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Oui, et puis moi j'avais surtout cette peur de décevoir, aussi ma famille, mon entourage, d'être quelqu'un d'autre pour eux, d'oser dire aussi que j'allais pas bien, que Léa qui allait tout le temps bien, qui souriait tout le temps, qui avait une vie parfaite, à l'intérieur c'était gris, parce qu'en fait ma vie était grise tous les jours. Et à ce moment-là, je m'étais posé cette question, je m'étais dit, mais en fait quand est-ce que c'est la dernière fois que t'as rigolé, mais vraiment rigolé sincèrement? Et ça remontait, je sais pas, à ma petite enfance, quoi, je m'en souvenais même plus. Donc d'un coup j'ai senti cette notion d'urgence et j'avais peur de ce que je voyais moi à l'époque, c'était entre guillemets finir sous les ponts, c'est-à-dire ne plus avoir un poste à responsabilité, une vie qui est valorisée par la société, parce que la société nous incite quand même à avoir aussi un certain statut. Et ben pour moi c'était une catastrophe. Qu'est-ce que j'allais devenir, quoi?
Ouais, de perdre ce statut social, finalement, quoi. Cette reconnaissance de notre famille, de la société, en tant que chef, responsable marketing.
Ouais, exactement. Et puis, il y a aussi un certain confort à être là-dedans, puisque même si... en fait, c'est un confort inconfortable. C'est-à-dire que c'est très confortable d'avoir ce statut, cette position, d'avoir tout, si je puis dire, tout ce qui est valorisé. Mais en fait, au fond... Enfin, c'est un malheur immense et c'est une vie intérieure qui est grise. Et puis surtout, c'est s'oublier. C'est mettre sous silence ses véritables envies, qui on est vraiment, sa véritable personnalité. Et c'est plus facile, en tous les cas, ça demande pas beaucoup d'efforts, tant que ça tient, de mettre tout ça sous silence.
Mais qu'est-ce qui est gris? Qu'est-ce que tu remets en question à cette époque-là de ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce quotidien qui se répète et duquel tu veux sortir? Parce que finalement, vu de l'extérieur, on pourrait se dire « mais tout va bien, t'as un métier, tu gagnes de l'argent, tu as du pouvoir d'achat, donc c'est les clés de la réussite et les clés du bonheur. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne ?»
Ce qui fait que ça dysfonctionne, c'est que vraiment, à un moment donné, j'avais l'impression que, en fait, malgré tout ça, j'avais pas un bonheur, je pouvais pas dire... si, évidemment, je pouvais dire « je suis heureuse », enfin bien sûr, parce que tant qu'il y a pas de gros malheur, voilà, mais j'étais pas sincèrement, profondément heureuse de vivre. En fait, je me disais « mais où est ma joie de vivre ? Et puis surtout, maintenant qu'on en parle, je me souviens, donc c'était avant d'avoir 20, j'avais 28 ans, donc c'était avant d'avoir 30 ans. Et je me suis toujours dit, je n'arriverai pas à 30 ans dans cet état. Et cet état veut dire cet état un peu de... Ni de tristesse, ni de joie. Je suis un peu morte à l'intérieur, quoi. Il n'y a plus trop grand-chose qui se passe, il n'y a plus d'étincelles, il n'y a rien qui brille. À l'époque, je pense que j'avais plus la possibilité d'exprimer qui j'étais. En fait, c'est moi qui m'étais coupée de cette possibilité en faisant des choix de peut-être ce qu'on attendait de moi ou ce qui est valorisé. Et j'arrivais plus à retrouver le chemin de ce qui vraiment me fait vibrer. Et c'était un chemin, aujourd'hui je le vois bien sûr, plus authentique, plus simple, plus artistique. C'est accepter sa sensibilité, accepter ses émotions. Enfin, ça demande de passer par beaucoup de processus pour retrouver ce qui nous fait vraiment vibrer. En fait, c'est repartir d'une page blanche et aussi se demander parfois, bah, par exemple, quand j'étais petite, de quoi je rêvais ? Enfin, de quoi je rêvais ? Qu'est-ce qui me faisait vibrer ? Et en fait, que j'ai plus aujourd'hui toutes les choses desquelles je m'étais coupée. Ça pouvait être aussi la nature, la spontanéité, le contact authentique avec l'humain. Puis aussi des idéaux que j'ai retrouvés aujourd'hui.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
La première chose que j'ai faite lorsque j'ai démissionné, c'est voyager. Puisque après avoir donc créé le vide dont je parlais, donc j'avais aussi coupé contact avec les proches qui m'entouraient. Je pense que ça n'a pas non plus été facile pour eux aussi de me savoir dans cet état. Donc j'avais un certain vide aussi de vie sociale, un vide professionnel. Donc j'avais des journées qui ne demandaient plus qu'à être remplies. Et j'ai voulu retrouver cette authenticité dont je parlais. En tous les cas, je sentais cet appel-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Inde. Donc, c'était juste après le Covid, je crois, parce que je me souviens que j'avais eu des problèmes justement pour le visa. Mais j'ai réussi à partir en Inde, ce pays qui m'effrayait tellement, justement, parce que c'était contraire à toute ma vie d'avant. Et que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'était que pour moi le voyage en Inde, c'était presque le voyage de trop dans je vais passer la frontière de ce qui est correct. Et ça a été le voyage qui a changé, qui m'a permis de, bah, je pense, de tout changer en fait, hein. C'est un voyage très immersif, puisque j'ai passé donc un mois, puisque je ne pouvais pas plus à cause des contraintes de visa, mais j'ai déjà passé un mois dans un ashram. Donc c'est à la fois très très court et très long. J'avais une grande appréhension de savoir ce que j'allais pouvoir trouver là-bas. Ce que je savais, c'est que je répondais au moins à mon appel de rencontrer des gens peut-être plus tournés vers la spiritualité. Et lorsque je me suis retrouvée dans cet ashram, donc dans le nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, au milieu de la nature, à faire du yoga, de la méditation, du chant de mantra toute la journée, là il y a un déclic qui s'est opéré en moi. Et j'ai eu des instants de connexion, je dirais, à moi-même, comme j'avais ressenti quand j'étais dans ce fameux temple en Corée. C'est des choses qui sont assez difficiles à décrire, qui ont été aussi facilitées par les personnes qui étaient là, par des professeurs, ce que je pourrais aussi moi appeler mes maîtres, mais dans le bon sens du terme, qui ont facilité ça, mais pas par leurs paroles, pas par des actes en fait, par leur simple présence. Et c'est la première fois, je pense, que je re-rencontrais des gens qui vivent tellement, tellement avec leur cœur, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient rien appris d'autre, ils ne vont pas à la rencontre des gens avec leur mental, ou ils arrivent à laisser tout ça de côté pour venir avec toi, mais vraiment avec le cœur, quoi. Et c'est d'une puissance incroyable, et c'est là aussi que la méditation a commencé à prendre une toute autre tournure.
Donc une sorte de voyage initiatique, et ce qui fait que quand tu reviens, plus n'est jamais comme avant. Donc là, tu actes donc cette démission, tu pars en Inde, tu découvres le yoga, la méditation, et après, parce qu'il y a quand même toujours un après-voyage, comment est-ce qu'on fait pour garder un équilibre quand on commence à goûter comme ça à des modes de vie, à des réalités très différentes et pas toujours complémentaires?
Alors je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. Puisque lorsque je suis revenue de ce voyage, je me rappelle très bien, et c'est ce qui se passe de toute façon depuis à chaque fois que je rentre de voyage, mais celui-ci en particulier, j'avais atterri à Paris, donc je rentrais à Paris à ce moment-là, je me souviens avoir pleuré pendant plusieurs jours, et de toute façon ça me fait encore ça, et il faut que je l'accepte. Je pense que c'est des choses aussi que je laisse, il y a beaucoup de choses que je laisse en voyage, il y en a aussi beaucoup que j'essaye de ramener dans ma vie, des choses en fait que je vais ramener dans ma vie parce que je n'ai pas le choix. Donc il y a l'authenticité, il y a le rapport que j'ai avec les gens, il y a cette façon de rencontrer aussi qui est un peu différente. Il y a beaucoup plus de choses que j'aimerais emmener, mais je vois bien que à chaque voyage, j'en ramène un peu plus de compléter.
Léa, merci. Merci beaucoup à toi.
Merci à toi Alexandre, c'était un plaisir d'être ici.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.